de 2022, Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons à parler du monde féminin. C'est non pas parce que c'est la mode, mais parce que c'est la réalité. C'est très important. Alors, on a parlé déjà de la fée Mélusine. On a fait une émission sur Jeanne d'Angleterre, la mère de Raymond. Une autre émission sur Blanche de Castille, qui était si importante dans la vie de Raymond VII. Alors, à partir de maintenant, sur trois émissions, je vous propose de réfléchir sur la place des femmes en général, au temps de Raymond VII, bien sûr, et en Occitanie. Alors, trois catégories de femmes qu'il ne faut pas confondre, semble-t-il. D'une part, les femmes de l'aristocratie médiévale en Occitanie, de la petite aristocratie, bon, on va voir ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et puis on aura deux autres sujets, un sur les femmes des milieux populaires, les paysannes, les artisans, etc. Et puis le troisième, ça sera à cheval sur les deux, si on peut dire, ça sera sur les femmes considérées comme hérétiques. Et en fait, les deux, la session d'aujourd'hui et celle de la prochaine, aideront à mieux comprendre la place des femmes en tant que considérées comme hérétiques. Voilà. Donc, nous parlons aujourd'hui des femmes de l'aristocratie d'Occitanie aux alentours du XIIe-XIIIe siècle. C'est un sujet qui est assez peu étudié et que l'on confond habituellement dès qu'on parle d'aristocratie. On ne fait pas de différence entre les grands seigneurs et puis les petits seigneurs des villages comme Vendrac, Lexos, etc. Oui. Et or, il faut absolument faire une grosse différence entre les deux. Alors, les premières, les femmes de la grande aristocratie, des comtes de Toulouse, de Foix, de choses, et puis les grands vassaux de ces comtes-là, bon, ce sont des gens qui sont riches, hein, les familles sont riches, donc les femmes aussi ont à leur disposition une certaine richesse. Elles ont reçu évidemment une certaine éducation avec une culture. Souvent, elles savent lire. Et bref, elles ont un certain pouvoir aussi parce que elles sont d'abord, elles ont leur dot et elles sont propriétaires parfois de maisons, de châteaux, de terrains, etc. Et elles ont beaucoup de domestiques, une petite cour autour d'elles. Et on les connaît surtout, ces femmes de la grande aristocratie, à travers les chants des troubadours, l'amour courtois. Vous voyez, là, on les connaît assez bien, parce qu'il y a tellement de troubadours qui ont parlé d'elles. Bref, voilà. Ce côté-là, je le laisse. Et on va parler d'un deuxième groupe de la petite aristocratie. Parce qu'il y a une particularité dans le midi de la France par rapport au nord de la France, je dis le nord, vous voyez ce que je veux dire, le milieu autour de Paris, qu'on appelle la France habituellement, qui deviendra la France plus tard. Hein. Alors là, on a une particularité, c'est que les seigneurs, il n'y a pas que les seigneurs, mais surtout les seigneurs, quand ils sont face à un héritage, c'est-à-dire que quand ils ont plusieurs enfants, surtout plusieurs garçons, ils sont obligés de le partager à égalité, par testament, entre les différents enfants. Bon, pour les filles, ça se règle facilement. On donne de l'argent, une dot, on les marie, on les envoie au couvent, l'affaire est réglée. Mais pour les hommes, c'est pas du tout ça, parce qu'entre eux, les garçons, ils veulent avoir un morceau du pouvoir, un morceau de le pouvoir de porter les armes, le pouvoir de ramasser des impôts, le pouvoir, enfin, un certain pouvoir politique, etc. Et ça, il faut le partager à égalité, donc partager ce bout de territoire. Et or, au fur et à mesure du temps, si on prend sur, mettons, un siècle et demi, deux siècles, le 11e, le 12e siècle, par exemple, vous vous en doutez, il n'y a pas toujours que des fils uniques dans les familles, il y a aussi des garçons, deux, trois garçons, et donc les territoires, les seigneuries, ça menuise. se fracture, se divise entre divers petits seigneurs. Je veux dire, même un seigneur, disons un grand seigneur, progressivement, avec deux, trois générations, on se retrouve avec un rien du tout. On se retrouve, par exemple, à la Barthe Blaise, où il y avait un seul seigneur au début du XIe siècle. Au XIIe siècle, on en a quatre, dans le même château, dans la même maison, sur le même village, se partageant le même territoire, chacun à son morceau, un bout de la rivière, un bout du Cérou pour y mettre un moulin, ou pour y aller à la pêche, un lavoir, des choses comme ça, quoi. Bref, un moulin. Et donc, ce pouvoir est devenu assez petit, et pour beaucoup de ces petits seigneurs, la vie est très dure. Ils sont pauvres, parfois ils sont plus pauvres que certains paysans de leur territoire. En particulier ceux qui possèdent des bœufs et un train de labourage, ils gagnent mieux leur vie. Ils ont un pouvoir qui est toujours assez limité. Vous voyez donc, je ne vais pas parler des hommes en particulier, mais les épouses de ces petits seigneurs, elles partagent, disons, la même situation, c'est la même situation de pauvreté. Et certaines sont vraiment très pauvres. Elles sont obligées de travailler de leurs mains, elles sont obligées de faire attention. Elles ont des maisons qui sont petites parce qu'il a fallu les partager entre plusieurs. Elles habitent à un étage, mais à l'étage au-dessus, il y a un autre foyer, à l'étage au-dessus, encore un autre. Enfin, c'est tout un milieu très particulier. Et il faut bien voir ça dans le concret, dans le comment ça se passe. Nous allons nous arrêter une minute avant de continuer. CFM.
So
Accord de 2022, Michel Bonnet. Nous continuons donc à réfléchir sur la situation des femmes de la petite aristocratie médiévale. Donc, des centaines, sur l'ensemble de l'Occitanie, bien sûr, ce sont des centaines de femmes qui sont des épouses de petits seigneurs, sont souvent pauvres ou même très pauvres, mais qui ont reçu une éducation et qui, parce que leur mari a un pouvoir, un petit pouvoir, le droit de porter des armes, de faire la justice, etc., elles se sentent un peu à part des autres. Elles ont une certaine fierté aussi et parfois elles participent, disons, au pouvoir du mari. Et ces femmes-là représentent un enjeu énorme. Et on a un texte qui nous le montre très très clairement. Il est fait, ce sont les coutumes de Simon de Montfort. Vous savez que quand Simon de Montfort a pris petit à petit, grâce à la lutte, etc., le pouvoir sur le comté de Toulouse, il a voulu installer le comté de Toulouse avec de nouvelles lois, de nouvelles coutumes. Et il a créé ce qu'on appelle, c'était en 1212, avant la grande révolte de Toulouse et avant la mort du roi d'Aragon à Muret, avant la bataille de Muret, vous voyez. Là, il a créé dès le début ce qu'on a appelé les statuts de Pamiers. C'est un ensemble d'une cinquantaine d'articles, 46 exactement, et là-dedans, il touche à toute l'organisation du Midi de la France. Or, il a un article, très important, l'article 46 d'ailleurs, le dernier, mais qui est presque le plus important, qui concerne les femmes dont nous parlons aujourd'hui. Je vous le lis tel quel, parce que ça montre l'importance de ces femmes dans l'organisation de la croisade et du Midi de l'Occitanie. Nous interdisions à toutes les femmes nobles, veuve ou héritière, possédant forteresse ou château, d'épouser d'ici à 10 ans un indigène de cette terre sans l'autorisation du comte, afin d'éviter le péril qui pourrait en advenir à ladite terre. Elles pourront épouser des Français de leur gré et sans demander l'autorisation du comte ou d'un autre. Les 10 ans passés, elles pourront se marier comme elles voudront. Donc vous voyez que Raymond VII voit très bien que pour organiser le pouvoir, son pouvoir de comte sur l'Occitanie, il faut contrôler ce milieu des femmes de la petite aristocratie. En fait, c'est un bouleversement complet des coutumes, puisqu'ils n'ont plus le droit de se marier avec des Occitans. Or, on se mariait toujours entre gens de même lignage, d'une même dynastie. En plus, il faut avoir l'autorisation de Simon de Montfort à faire du comte du comte en vigueur à l'époque. Donc, c'est vraiment une révolution, c'est une colonisation, quoi. Colonisation par la domination française. Bon, ces statuts partiront, ne seront pas suivis, puisque, heureusement, Simon de Montfort, au bout de quelques années, se fera trucider à la bataille de Toulouse. Mais ça a bouleversé pas mal de choses pendant quelques années. Et ça a surtout mis une révolution à l'intérieur des familles, à l'intérieur des maisons, les femmes, les hommes aussi. Quand on pense mariage, on pense famille, on pense héritage, etc. C'était très important. Or, pour voir ces femmes, il faut bien faire attention parce que l'Église, 9 fois sur 10, qui nous donne tous les renseignements sur l'Inquisition, etc., toutes ces femmes, elle les considère comme hérétiques, comme cathares, ou pas toutes peut-être, mais 99 sur 100. Vous voyez, donc, dans tous les documents, on a tendance, nous, à les lire, à lire ça, à penser que, bon, ben, les femmes, elles étaient hérétiques, c'était des cathares, etc., point fin. Mais il faut bien faire quand même une différence, parce que, d'abord, toutes ces femmes aristocrates n'étaient pas cathares, et ensuite, parce que toutes les femmes cathares n'étaient pas de l'aristocratie. Et donc, on a intérêt, on a avantage à voir qu'est-ce que c'est non pas à partir de la religion, mais à partir de la vie sociale, etc. Aujourd'hui, quand il y a une manif, on va pas demander aux gens est-ce que vous êtes chrétien, catholique ou protestant ou musulman ou autre ou sans religion, etc. Hein, on est là, on a les gilets jaunes. Bon, eh ben c'est bon. on se bagarre, on a autre chose à faire qu'à penser religion. Enfin, habituellement, quoi. Et donc à cette époque-là, c'est la même chose. Ce qui est important, donc, de se rendre compte, c'est que ces femmes sont marquées par une culture particulière, on le comprend. Des gens qui sont à la fois, dont le mari a un certain pouvoir politique, dont le mari a le droit de porter des armes et aussi l'obligation de s'en servir pour protéger les gens qui sont autour de lui. Il peut en retirer quelques impôts qui sont toujours bons à prendre. Ils donnent des ordres pour organiser les chemins, les rivières, etc. Bref, ils sont respectés par la population, hein. Plus ou moins, bien sûr. Mais il y a toujours un certain respect pour la population, et donc ça rejaillit sur ces femmes. Et ces femmes, donc, elles ont reçu une éducation, et on le voit très précisément, parce que d'une part, très souvent, elles savent lire, pas couramment, peut-être pas, mais elles ont toujours trois mots elles peuvent lire un petit texte qu'elles ont reçu, qu'elles ont appris à lire, qu'elles connaissent sur, par exemple, les évangiles ou une tradition quelconque. Bref, elles ont une certaine éducation, et cette éducation les met à part de l'ensemble des autres femmes. Il faut s'arrêter sur justement cette éducation de ces femmes qui est très importante pour comprendre leur relation aussi entre elles, mais leur relation aussi avec l'Église. Et elles reçoivent une éducation depuis leur toute petite enfance, parce qu'elles sont éduquées par des femmes, par leur mère, par leur grand-mère, leur tante, etc. Et elles apprennent. L'éducation, c'est apprendre à vivre dans leur milieu, à vivre en tant que femme d'un seigneur, vous voyez, ou parente avec un seigneur. Bref, avec quelqu'un qui a un pouvoir. Elles-mêmes, elles auront peut-être un pouvoir. Elles recevront une dot au moment du mariage, et il faudra qu'elles la gèrent, sinon ça va disparaître. Si la dot, c'est de l'argent, bon, c'est une chose, mais si la dot, c'est un territoire, ça en est aussi une autre. Vous voyez, donc l'éducation à cette époque-là, c'est pas du tout comme aujourd'hui, aller dans une école et apprendre à lire, à écrire, à compter, apprendre l'histoire, etc. Non, ça se fait en famille et on apprend à vivre et à vivre dans le style de la famille. Bon, on va s'arrêter un peu plus longtemps là-dessus après une minute de musique.
Una maitena naku maso andu ala nyandu tzara yana Vero Tandi finda unanura nandafu tola vaku mtete yana Vero Tora una maitena naku maso andu ala nyandu tzara yana Vero Tandi finda unanura nandafu tola vaku mtete yana Pero lai volo nao ni kiupaka to unza nandava lai laka nani tatitai nyutana nao maranita nandufta ratu sisana na kwizai turima era pararana nibanitani vambulekia nao Pero Ambalala nandinga tani tani nitata kafina kwa ndava nande nao Vero Torivu maera mpararana niba nitani fambulekia nao Vero Andi ambalala nandinga tani tani nitata kafina kwa ndava nande nao Vero Lai masu nao nireita Tutur tanet nandut larifcha mamelunai Kakakaka nao nirefcha
napzanga manre pun nambu imitsilai.
CFM.
De Cahors à Albi.
De Cahors à Albi.
L'esprit rock.
Corde 2022, Michel Bonnet. Donc ces femmes dont nous parlons, les femmes de l'aristocratie, reçoivent une éducation qui les insère dans leur milieu. Et cette éducation, il faut bien faire attention, en fait, elle est donnée par les femmes de la famille. C'est une éducation qui se fait entre femmes, de la maman à la fille ou de la tante à la nièce. Enfin, c'est toujours à l'intérieur d'une famille et ça renforce les liens de la famille, les liens du lignage. Vous le savez, le lignage, c'est capital à cette époque-là. Et parce que c'est basé sur une histoire de la famille, une histoire du lignage dont on est fier et dont il faut continuer à maintenir la façon de voir les choses, les coutumes, bien sûr, les relations avec les autres familles, les autres gens. Donc, on les habitue, on les a formés à une solidarité, mais une solidarité, je dirais, horizontale. Horizontale au sens de gens avec qui on est lié, grosso modo, par le même milieu, par la même richesse ou la même pauvreté, mais enfin, vous voyez. Donc, une relation horizontale qui est différente de celle des paysans, des femmes d'artisans ou des domestiques, etc., qui ont surtout un type de relation, je dirais, verticale, parce que elles doivent suivre les ordres qu'on leur donne, elles doivent obéir, elles doivent rendre des comptes à quelqu'un qui est supérieur. Tandis que là, ces femmes aristocrates, c'est entre elles qu'elles gèrent tout ça, donc au sens de, non pas d'une dépendance, mais au sens d'une liaison avec une famille. Et donc, cette éducation qu'elles ont reçue les enferme en quelque sorte dans un milieu féminin, et un milieu qui est caractérisé à cette époque-là par la violence des hommes. Aujourd'hui, on en parle un peu, depuis quelque temps, les abus sexuels sur les femmes sortent dans le public. On est sensibilisé à cette question, mais au Moyen-Âge, c'était terrible. La violence, le machisme pas seulement le machisme, enfin, à la base du machisme, il y a le machisme et violence, c'est ensemble, quoi, mais le machisme des hommes était terrible, et la violence était terrible, et en particulier la violence sexuelle, même vis-à-vis de sa femme. Il fallait aller dans un milieu assez aisé, non pas vis-à-vis de sa femme, mais vis-à-vis d'une amante, vis-à-vis de quelqu'un qu'on draguait, pour qu'il y ait une certaine politesse, une certaine amabilité, comme on le voit dans les troubadours. Mais en règle générale, le rapport homme-femme était un rapport basé sur la violence des hommes vis-à-vis des femmes. Et donc l'éducation que ces femmes ont reçue, c'est une éducation toujours pour se protéger par tous les moyens, de la violence des hommes. Donc faire attention, comment on salue un homme, comment on est salué, comment on le rencontre, comment on parle, comment on se laisse aller à des relations plus ou moins suivies, plus ou moins fortes, mais avec toujours par derrière ce sentiment, attention, c'est dangereux. Et quand elles sont éduquées, quand ces fillettes... L'éducation, elle commence à la maison dès l'âge de 3-4 ans, vous voyez, et on continue jusqu'au mariage, ou enfin tout le long de la jeunesse, et en particulier jusqu'à la puberté. C'est extrêmement important, parce que dans ce milieu-là, il faut se présenter au mariage vierge. Donc il faut absolument se protéger, et toutes ces jeunes filles de milieu de la petite aristocratie vivent donc enfermées dans les relations familiales, enfermées dans la maison, sortent très peu seules, il faut une exception incroyable pour ça, sont toujours protégées par d'autres femmes ou par des hommes de la famille, bien sûr, par des frères, etc. quoi, oui. Donc cette éducation habitue les femmes à se serrer les coudes entre femmes, à vivre entre femmes. Et elles vivent beaucoup dans la même maison. Pourquoi ? Parce que à l'époque, les hommes, parce qu'ils sont des bagarreurs, je veux dire, des seigneurs qui sont souvent pris à la guerre avec un seigneur suzerain plus haut, ou qui doivent s'occuper de courir après 3 bandits dans la région, enfin, ils sont souvent dehors. Et pas seulement pour une heure ou deux dans la journée. Non, c'est des fois plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc les femmes ont pris l'habitude de vivre entre elles, de vivre à la maison, mais à plusieurs. Elles se retrouvent à 3-4, celles qui sont sœurs entre elles ou parentes entre elles, on le comprend, elles préfèrent habiter ensemble dans la maison qui leur convient le mieux, tant plus que quelquefois elles possèdent elles-mêmes leur propre maison, ça vient de leur dot, vous voyez. Et donc elles ont l'habitude de cette vie familiale, et elles apprennent par là à organiser les domestiques qu'elles régissent, les relations avec les paysans qu'il y a autour, avec des travailleurs qui sont au service de la seigneurie, vous voyez, les gens du moulin, les maçons, les charpentiers, etc., les esclaves, enfin les serfs, puisqu'il y avait beaucoup un type d'esclavage à l'époque qui était assez poussé, même il y en a qui étaient libres aussi, bien sûr. Donc, toutes ces relations qui, pour les femmes, étaient d'abord des relations féminines. C'est pas elles. C'est rare que les femmes allaient donner des ordres à des hommes. C'est elles. Elles avaient des relations privilégiées avec les femmes, surtout quand elles étaient domestiques ou travailleuses dans leur milieu. Voilà. Et donc, ces femmes-là formaient un milieu très uni, et qui avaient l'habitude de vivre entre elles, parfois très longtemps, parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois, uniquement entre femmes. On va s'arrêter un peu plus là-dessus, après un brin de musique. Thank you.
told me this, you told me that, you tried to tell me where it's at. You said you love me, I can't see through that.
Lies, lies, lies.
You left me hanging, hanging from the limb. You said you love me, then you left with him. Lord, you did it to me, I see it in your eyes.
CFM.
CFM, il y a du rock.
Il y a du rock.
C'est d'ailleurs à ça qu'on la reconnaît.
C'est d'ailleurs à ça qu'on la reconnaît.
CFM.
L'esprit rock.
L'esprit rock.
Corde 2022, Michel Bonnet. Les fans de l'aristocratie occitane, donc, nous continuons à essayer de les cerner un peu. C'est difficile, bien sûr, mais de les cerner dans leur milieu de vie normal, pas dans le point de vue religieux, même si tout ce qu'on sait d'elle nous a été transmis en fait par le clergé, par les comptes rendus des séances de l'Inquisition. Donc je disais que les femmes de l'aristocratie occitane, de la petite aristocratie, vivaient beaucoup entre elles et donc avaient vivaient dans un milieu, disons, féminin très très lié. Lequel milieu ? Était évidemment en connexion étroite avec les femmes du milieu populaire, puisque les domestiques sont là, celles qui accompagnent pour sortir, pour aller dans un marché, pour aller au jardin, pour faire quelque chose. Vous voyez, donc ces femmes de la petite aristocratie servent de relais, en fait, à travers le milieu féminin, de relais entre ce que je pourrais dire, le pouvoir politique, si on peut dire, que leur mari est seigneur, politiquement il a du pouvoir, et donc elles sont liées à ce pouvoir, et évidemment, sans doute, de temps en temps, elles regardent si les ordres donnés sont suivis, si tout se passe bien, et également avec le pouvoir religieux, parce qu'à l'époque, tout est divisé entre... divisé entre guillemets, il y a deux pouvoirs qui sont souvent liés l'un et l'autre, mais de pouvoir, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Or, ce qu'il y a, c'est que cette situation qu'elles ont de lien avec le pouvoir seigneurial à travers leur mari fait qu'on les appelle souvent les bonnes femmes. Le mot qu'on utilise beaucoup pour parler d'elles, c'est un mot respectueux, vous voyez, on les salue et on parle d'elles comme bonnes femmes. C'est quelque chose qui est bon, normal pour tout le monde. Mais ce qui se passe et qui nous trompe souvent à nous, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention quand on étudie ces documents de l'époque, c'est que les inquisiteurs ont pris l'habitude d'appeler ces femmes-là les femmes hérétiques, les bonnes femmes. Et donc, très souvent, quand nous, on entend parler bonnes femmes, et pour les bons hommes, c'est la même chose, on pense quasiment automatiquement cathares. Et c'est pas du tout vrai. Il faut absolument pas partir du religieux pour comprendre ces femmes-là. C'est le contraire. Faut partir de leur situation sociale pour les comprendre. C'est donc pour ça que, à l'heure actuelle, depuis une dizaine d'années, il y a des bagarres monstres parmi les historiens, surtout en Occitanie, pour faire la différence entre les cathares et puis les femmes ordinaires. Mais on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Ce que je voudrais souligner dans, avant de clore cette émission, c'est vous sentez à quel point ce lien avec le catharisme va être difficile à gérer, à étudier, à regarder, parce que par rapport à l'Église, ces femmes-là sont un danger en quelque sorte, on pourrait dire un contre-pouvoir, puisque elles ont reçu une certaine éducation. Elles ont quand même un certain pouvoir puisque leur mari est seigneur et elles ont des relations, elles ont parfois un brin de richesse, etc. Et du fait de leur culture et du fait qu'elles vivent entre femmes et que donc elles améliorent leur culture, elles réfléchissent, elles parlent, elles s'enseignent des tas de choses, elles sont au courant de tas de choses. Face au clergé local, ce sont des gens qui réfléchissent, qui ne font pas qu'obéir à ce que dit le curé, un point c'est tout, le curé ou l'évêque ou le prêtre en charge du coin. Et on est dans une époque où justement l'Église, dans l'Église, disons, il y a une partie du clergé, les papes habituellement et certains grands évêques veulent rénover l'Église parce que les curés de paroisse et parce que beaucoup d'évêques sont devenus purement et simplement des seigneurs qui ont leur petite milice, leur armée, qui sont mariés, qui ont leurs femmes, leurs enfants, qui pensent d'abord à la richesse beaucoup plus qu'à la religion. Et donc, ils veulent rénover l'Église en luttant contre ces déviations du clergé, déviations qui sont en fait liées au pouvoir politique et au pouvoir financier. Et donc, les papes, une partie du clergé et surtout les moines disent pour rénover l'Église, il faut se séparer de la richesse. Il faut chercher la pauvreté, la simplicité, que ce soit dans les habits, dans la nourriture, dans le train de vie, etc. Et puis, il faut se séparer de ce pouvoir. On forme une petite communauté et c'est ensemble qu'on va essayer de vivre. Or, le clergé renacle à cela. Vous en doutez bien. Évidemment, quand on lui dit tu vas perdre la moitié de ta vigne parce que elle t'appartient pas, mais qu'elle a été donnée à l'Église et non pas à toi, Pierre, Raymond ou autre chose, et quand on leur dit que au moment d'un enterrement, on n'a pas le droit de prendre de l'argent ou des choses comme ça. Bref, il y a toute une tendance des prédicateurs qui pousse à ce renouveau, qui pousse à réfléchir dans le sens de la pauvreté, dans le sens de la simplicité, donc qui rejoignent un peu ce que pense ou ce qu'ont tendance à penser ce milieu ordinaire, ce milieu des femmes. Et par conséquent, les femmes accueillent bien ces prédicateurs et renvoient la balle, si on peut dire, sous la forme de critiques vis-à-vis de l'Église. Laquelle Église, lequel clergé pour se protéger, pour se venger en quelque sorte, de dire « Ouh, mais cette femme, c'est une hérétique !» Et c'est là où ça va très mal. Parce que pour protéger leur pouvoir, une bonne partie du clergé prend l'habitude de considérer les femmes qui réfléchissent, les femmes et les hommes, mais c'est surtout les femmes à cette époque-là, les femmes qui réfléchissent et qui émettent des critiques en disant ça correspond pas à l'Évangile, ça correspond pas à ce que veut Dieu, etc. Ils répondent ben tu es une hérétique et condamnation, etc., etc. Donc vous voyez comment à cause de leur milieu social, de leur situation dans la société et à cause de l'éducation qu'elles ont reçue, ces femmes de la petite aristocratie sont au cœur de l'évolution de l'Occitanie et de l'Église au niveau du XIIe, XIIIe siècle, surtout au XIIIe siècle. Et elles forment, si on regarde un peu les statuts, les documents de l'Inquisition, elles forment une grande partie des femmes qui ont été condamnées comme hérétiques. On en reparlera bien sûr plus en détail l'année prochaine, puisque ça va être un des thèmes importants de ce que je compte vous proposer pour notre réflexion à travers ces petites rencontres que, grâce à CFM, nous réussissons à maintenir. Je vous dis au revoir, et puisque nous sommes en décembre et qu'il n'y aura pas d'autres émissions, je pense, d'ici la fin de l'année, je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An, malgré tous les événements et toutes les difficultés dont on est entouré, comme d'ailleurs étaient entourés Raymond VII et les Cathares il y a quelques siècles. Au revoir, merci.
Very soon.
CFM.
CFM,
elle a tout ce qu'il faut, là où il faut.
CFM,
CFM, l'esprit rock.
I got the key to the highway. Bill out and I'm bound to go. And I'm gonna leave here running. Caught walking moves too slow. When the moon keeps holding
mountain. Yeah, you know I got to be on my way. I'm gonna run the highway until the break of day. Give me one more kiss, baby. Yeah, before I go. And I'm gonna leave you running, 'cause walking moves too slow. Walking awful slow, boy. Until the day I die.